Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, 2 morts et 10 de blessés. Hier soir à Tel Aviv, l'auteur de l'attaque, un Palestinien de Cisjordanie, a été tué à Jaffa. La réconciliation entre Rabat et Madrid, le Premier ministre espagnol a participé à un iftar aux côtés du roi Mohamed VI. Coup de projecteur sur la sécheresse au Maroc avec l'universitaire et journaliste Omar Brooksy. L'ancienne ministre algérienne de la Culture, Khalida Toumi, condamnée à 6 de prison pour corruption. Enfin, la campagne électorale s'achève à minuit en France. Le socialiste Aklim Elouli appelle les habitants des quartiers populaires à utiliser leur droit de vote. Il sera l'invité de Pluriel ce soir à 19h. En Israël, 2 morts et 10 de blessés hier soir lors d'une attaque à Tel Aviv. L'assaillant a tiré sur des personnes attablées en terrasse dans un quartier animé. Selon la police israélienne, le tireur était un Palestinien de Jénine, en Cisjordanie occupée. Il a été tué quelques heures après l'attaque près d'une mosquée dans le secteur de Jaffa. Le premier ministre israélien a annoncé qu'il donnait une liberté d'action totale aux forces de sécurité. Afin de vaincre la terreur, il n'y aura pas de limite à cette guerre, a déclaré Naftali Bennett. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a condamné l'attaque terroriste, attaque condamnée aussi en France par plusieurs candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. En France, émotion ce matin dans la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse. Un homme a laissé un colis pendant la messe. Selon le ministre de l'Intérieur, il s'agissait d'un engin explosif improvisé, a priori sans dispositif de mise à feu. L'individu est activement recherché. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, reçu hier par le roi Mohamed VI avant un iftar, la rupture du jeûne du Ramadan, offert en son honneur, une visite qui marque la réconciliation entre l'Espagne et le Maroc. Pedro Sanchez a qualifié ses entretiens avec le souverain marocain de moments historiques. Dans une déclaration conjointe, Mohamed VI et Pedro Sanchez ont affirmé que l'Espagne reconnaît l'importance de la question du Sahara pour le Maroc, ainsi que les efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations Unies pour trouver une solution mutuelle acceptable. Le Maroc est en proie à la sécheresse, l'une des pires depuis 1981, une sécheresse qui a des effets directs sur l'économie du pays. Depuis le début de ce mois, les précipitations sont de retour dans le royaume. Entretien avec le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy.
Il faut nuancer un petit peu, à mon avis, parce que cette semaine qui vient de se passer, pratiquement, il y a eu des chutes de pluie très très importantes et je dirais salvatrices et très très bien reçues et perçues par la population, notamment dans le milieu rural, parce que elle a permis un peu de sauver ce qui peut être sauvé des plantations, de notamment le blé, et surtout c'est un bienfait surtout pour les barrages d'un côté qui ont connu leur niveau le plus bas depuis des décennies. Après cette sécheresse. Et surtout pour ce qui concerne les animaux, le cheptel, le bétail, etc., parce que comme il y a eu des chutes très importantes, je dirais que le bétail sera « sauvé » entre guillemets, et cela donnera un peu de confiance aux agriculteurs et aux éleveurs de bétail. Donc c'est vrai que le Maroc a connu une sécheresse vraiment 85, mais il faut noter aussi que il y a eu ces chutes de cette semaine et qui continuent dans certaines régions, hein, à l'instant où je vous parle. Donc, ils continuent dans certaines régions. Donc, ceci dit, l'agriculture a été atteinte, en général, de manière générale, a été atteinte par cette sécheresse. Le problème, c'est que Cette stress a été malheureusement couplée avec la grave crise que connaît le monde et dont le Maroc n'échappe pas. La crise qui se manifeste par les conséquences de la guerre en Ukraine. Nous aussi, nous en souffrons. Il suffit de rappeler et de préciser que l'essence et le gasoil ont connu une augmentation jamais vue, jamais aperçue et vécue au Maroc, puisque les deux, que ce soit l'essence ou le gasoil, ont atteint plus de 14 dirhams le litre, presque 1,30 €, ce qui est vraiment inimaginable. Donc, en plus de la crise économique due au Covid, donc c'est pour ça que la sécheresse dont vous parlez a eu des conséquences autrement plus aggravées, ou aggravantes, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il faut, comme je l'ai dit, il faut nuancer parce que ces chutes de pluie des derniers jours a un petit peu sauvé la mise.
Quel est le plan des autorités aujourd'hui pour faire face au risque de pénurie d'eau?
Il faut dire que les autorités sont un peu perdues parce que il y a eu un fonds de soutien aux personnes, aux catégories sociales qui sont le plus touchées par la crise en Ukraine et la guerre en Ukraine, en Ukraine surtout. Donc il y a eu des fonds de soutien, par exemple, aux agriculteurs, selon les propriétés et avec incitation des banques pour qu'il y ait des facilités de paiement pour les agriculteurs. Mais c'est un fonds qui est très, très, très subventionne, ça il ne faut pas l'oublier non plus, subventionne une matière de première nécessité. Et donc, cette subvention coûte beaucoup au budget de l'État. Et elles sont là pour justement essayer de combler l'augmentation de plusieurs produits importants comme l'huile, etc. Donc il y a le couplage de plusieurs problèmes, de plusieurs crises, la crise de la sécheresse, les conséquences de la crise de l'Ukraine. Donc les autorités essaient, à travers les subventions et à travers un fonds essentiellement dirigé vers les personnes, les catégories les plus touchées, comme par exemple les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de camions, tous ceux qui consomment de manière importante les énergies, mais c'est assez insuffisant parce que la crise est cette fois assez profonde.
Le Maroc qui mise notamment sur le dessalement de l'eau de mer pour faire face au déficit hydrique.
Le Maroc, bien sûr, il y a des projets, mais bon, le Maroc surtout mise sur les barrages et justement ces dernières pluies sont salvatrices parce que elles ont un peu équilibré le taux de remplissage. Et surtout, dans les régions berbérophones, montagnères du Mont Atlas, sont les plus touchées de ce problème de l'eau. Il faut dire que dans certaines régions, l'eau potable manque énormément. Et cette situation s'est aggravée justement par ce déficit de pluviométrie et cette sécheresse. Mais ces projets, évidemment, ils sont présents. Les projets dont vous parlez de dessalement et de traitement des eaux usées. Il y a pas mal de centrales pour aussi le traitement des eaux usées, dont une près de Casablanca dans une ville à Stade. Il y en a à Marrakech, 3 ou 4. Donc il y a des efforts à ce niveau-là, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le Maroc est un pays, je dirais pas agricole, mais l'agriculture marocaine est une agriculture de subsistance. Il y a une part d'agriculture industrielle, mais la partie la plus importante de l'activité agricole est une activité de subsistance. Donc, elle s'appuie et elle compte beaucoup sur la pluie, d'où cette année la crise que l'on connaît à cause de cette sécheresse.
Le journaliste et universitaire marocain Omar Brooksy, il répondait à François-Xavier de Calonne. En Algérie, l'ancienne ministre de la Culture du président Bouteflika, Khalida Toumi, condamnée à 6 ans de prison ferme pour corruption. Selon l'accusation, les faits qui lui sont reprochés sont liés à l'organisation de manifestations culturelles comme Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, le festival panafricain en 2009 et l'événement Alger, capitale de la culture arabe en 2007. Le FMI est parvenu à un accord de principe avec le Liban, un plan d'aide de 3 milliards de dollars sur 4 ans En échange, les autorités libanaises ont accepté de lancer plusieurs réformes essentielles avant la réunion du prochain conseil d'administration du FMI. Le Fonds monétaire international souhaite notamment une restructuration du secteur financier et une politique de lutte contre la corruption. L'Arabie saoudite annonce le retour de son ambassadeur à Beyrouth. Le ministère saoudien des Affaires étrangères affirme qu'il s'agit d'une réponse aux appels des forces politiques modérées au Liban. L'invité de Pluriel à 19h est Akli Mellouli, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, membre du Conseil national du Parti socialiste, soutien d'Anne Hidalgo. Il appelle les habitants des quartiers populaires à voter dimanche.
Notamment moi qui suis un fervent militant des quartiers populaires et qui suis resté toujours en phase avec les classes populaires, avec le peuple de France, je dis aux gens qui habitent dans les quartiers en général d'aller voter, même s'ils votent blanc, parce que c'est pour ça qu'ils ne sont pas pris en considération. Comme ils ne votent pas, eh ben, y a un certain cynisme politique de ne prendre en considération que des électeurs captifs ou leurs électeurs potentiels. De parler aux segments, comme ils disent aujourd'hui, on ne fait plus de la politique pour parler aux Français, à tous les Français, quelles que soient leurs origines, mais on parle à des segments captifs pour essayer de se hisser. On est dans le calcul électoral et non plus dans le projet politique et dans le projet de société.
Akli Mellouli, justement, c'est dans les quartiers populaires que l'abstention est la plus forte. Cette semaine, plusieurs candidats ont fait des clins d'œil appuyés à cet électorat. Mais certains habitants peuvent se demander si on ne va pas chercher leur voix pour les oublier aussi après l'élection.
Alors, et bien sûr, ça peut être aussi le risque. D'ailleurs, même les autres voix peuvent être oubliées. Mais le problème, c'est que c'est pas de raisonner. On peut raisonner. Il faut qu'ils raisonnent différemment. En disant, en allant voter, je montre que j'existe, que je suis là. En démocratie, c'est l'arme véritable, c'est le vote. C'est ça la démocratie, c'est le vote, c'est le droit de vote. Ce droit que certains se sont battus pour l'avoir, on l'a. Donc on doit l'utiliser. Il doit pas être désuet. On peut voter blanc si on veut, le vote blanc existe, mais il faut aller voter. Voter, c'est montrer aux politiques qu'on existe, qu'on est là, et qu'on est attentif, et qu'on sera vigilant. Et la meilleure garantie pour leur faire tenir leurs engagements, c'est d'être vigilant et d'utiliser son bulletin de vote, et de montrer qu'on sanctionne aussi. Le bulletin de vote vous élit, mais il vous sanctionne. Et donc c'est ça qui doit être démontré, et c'est pour ça que moi j'appelle tout le monde à voter massivement, pour le candidat pour lequel ils veulent. S'ils votent pour ma candidate, j'en serais ravi, c'est que je les aurais convaincus et que je pense qu'ils nous feraient confiance. Mais il y a eu, comme on a aussi pendant 5 ans fait du Hollande bashing, tout le temps en permanence, au lieu de dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, et de dire aussi ce qui a été, et de pouvoir passer à autre chose, eh bien aussi, ça nous a conduit aussi là, quand on ne s'aime pas nous-mêmes, les gens ne vont pas nous aimer. Donc à un moment donné, bien sûr qu'il y a plein de critiques sur le Parti socialiste. Moi-même, le premier, je le critique. Je parle de l'appareil, je ne parle pas des valeurs. Ne confondons pas les valeurs socialistes et l'appareil. Les valeurs socialistes sont encore porteuses dans cette société, elles sont encore porteuses dans le monde, on l'a vu en Europe. Ils reviennent au pouvoir, et je crois que on a besoin de socialisme, parce que le socialisme, c'est quand même le partage, la dignité, le respect, et surtout, effectivement, eh bien, le progrès, le réformisme, la prise en compte de l'humain, prioritairement.
Akli Mellouli, la France est fracturée, divisée. Pourtant, dans la devise républicaine, il y a liberté, égalité, fraternité. Comment rassembler les Français après l'élection présidentielle? Comment apporter aussi un peu de fraternité?
La fraternité, c'est la bienveillance les uns à l'égard des autres. Ça, c'est une règle, c'est une valeur de la République. Et je crois qu'effectivement, certains candidats, quand ils éructent sur les plateaux, quand ils insultent une partie des Français, ne sont pas dans la bienveillance. Ces gens ne peuvent pas, ils se drapent dans des oripeaux républicains, dans les couleurs de la France, mais ils se vautrent dans la gadoue parce qu'ils ne respectent pas ces principes. Il ne s'agit pas d'être habillé, c'est le fond qui compte. Vous savez, comme on dit en France, l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, eux, ils s'habillent dans les oripeaux de la République, mais ils n'en défendent pas les valeurs de la République. Parce que l'égalité, c'est une garantie de l'État. C'est pas du supplément d'âme ou du bon sentiment. Vous m'entendez bien? C'est une garantie de l'État. C'est à l'État de la garantir. C'est pas aux gens d'aller chercher ce droit. Ce droit est long dans la Constitution. L'égalité, dans les principes de la République, c'est une garantie de l'État. La liberté, c'est aussi le droit à chacun de vivre ou d'agir ou de se mouvoir comme il l'entend à partir du moment où il respecte la liberté des autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et, vous l'avez dit, la fraternité, c'est la bienveillance des uns à l'égard des autres. Eh bien, je vous demande de regarder, est-ce que les candidats dont on parle sont effectivement porteurs de ces principes de la République ?
Akli Mellouli, maire adjoint de Bonneuil-sur-Marne, membre du Conseil national du Parti socialiste et soutien d'Anne Hidalgo. Il est l'invité de Pluriel ce soir à 19h. Et les sondages indiquent qu'une forte abstention est possible lors de ce premier tour. Je vous propose d'écouter l'analyse de Patrick Leyaric, éditorialiste à l'Humanité.
L'abstention est souvent aujourd'hui un vote de refus, c'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens ne s'y retrouvent pas dans le débat politique, dans les propositions politiques telles qu'elles sont faites. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat contradictoire sur le bilan des quinquennats écoulés et sur une projection des politiques à venir compte tenu des grands enjeux de société dont on a à faire face, les enjeux climatiques, les enjeux de la pandémie et de la santé, les enjeux autour de la guerre aujourd'hui, les enjeux de sécurité mondiale, de sécurité humaine mondiale auraient dû être au cœur des discussions, de la controverse politique. Ce n'est pas le cas. Ceci dit, pour celles et ceux qui décident de ne pas aller voter sciemment, je leur dis, faites attention, méfiez-vous, parce que le fait que vous n'alliez pas voter, ça peut être considéré comme un vote, comme une approbation de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une sorte de duo entre le libéralisme autoritaire et un national-capitalisme qui sera préjudiciable à tout le monde, y compris à ceux qui se seront abstenus.
Et pour les électeurs qui seraient éventuellement déçus par le résultat dimanche soir ou dans 15 jours, il y aura aussi les législatives, ce sera un moment démocratique important à ne pas oublier.
Oui, d'ailleurs, il serait préférable de faire comme dans tous les autres pays européens, il serait préférable d'avoir un système électoral qui parte du Parlement. Dans tous les pays autour de nous, même là où il y a des rois et des reines, ça part du Parlement, c'est-à-dire il y a une majorité parlementaire qui se dégage à partir de l'élection des parlementaires, donc chez nous, des députés. Et évidemment, ce sera un moment important parce que élire des députés, c'est élire ou se prononcer sur un programme de législature pour 5 ans. Et donc, ce débat devra avoir lieu et les gens, ils auront tout le loisir d'approuver, de conforter les choix du président de la République qui sera élu. Mais en général, mieux vaut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donner de la force aux forces progressistes, aux forces sociales, de telle sorte qu'il y ait une alternative qui s'ouvre dans notre pays.
Patrick Leyaric, éditorialiste à l'Humanité. Cette édition est terminée. Je vous retrouve à 15h pour le flash, 18h pour le journal. Excellente journée à tous.